L'émission, on reçoit Ariel du restaurant 1668. Allô Ariel, comment ça
Bonjour,
va?
Bonjour, ça Salut. Va bien malgré la neige et le froid?
Ouais. On essaie de pas
Je l'avais oublié, là.
Ouais, c'est ça, elle est
Je reviens dehors, là.
Ouais, c'est ça. Toi, il faisait froid il y a de ça quelques temps. Écoute, aujourd'hui, Ariel, tu vas nous... parce qu'à chaque semaine, on arrive à un nouveau sujet. La semaine, voilà deux semaines, on a été avec Kevin. On a,
oui, parlé de vin.
De vin. On n'a pas juste parlé.
On y a goûté.
C'est vrai orange, bon. Moi, c'est dans ma palette.
Super.
Là, on va parler un peu gastronomie. Tu veux nous démystifier le tout?
Ouais, c'est un terme qui est un peu porte-manteau, gastronomie, là, qui est vraiment large, qui englobe beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on parle quand on parle de cuisine gastronomique? Particulièrement, la gastronomie, c'est quoi? T'sais, au sens le plus large du terme, la gastronomie, c'est dans le fond toute forme de nutrition, d'alimentation qui n'est pas reliée directement à la nutrition. Fait que si tu dis « j'ai faim, je mange », c'est pas la gastronomie. Mais si tu sors pour un prétexte autre, c'est pour goûter, pour découvrir, pour une soirée, bien là, ça tombe dans la gastronomie, mais ça, c'est le sens très, 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 très large.
Okay.
Le mot gastronomie a ici évolué avec les époques. La gastronomie d'aujourd'hui, en 2024, c'est pas la même de, mettons, en 1835.
Non, il n'y a pas les mêmes aliments, mettons.
Bien, les aliments, les techniques, les goûts, ce que le client attendait d'une expérience gastronomique évolue avec le temps. Fait que nous, on est dans une gastronomie qu'on appelle plus moderne, surtout 1668. Donc, en tout cas, on se veut un restaurant gastronomique, c'est un travail, là. Je veux dire, c'est pas n'importe qui s'improvise restaurant gastronomique pour le plaisir, là. Il faut vraiment travailler sur le truc. Fait que, tu sais, nous, quand on parle de ça, là, au début, la gastronomie, ça n'existait pas du tout, là. Quand on parle de, mettons, 1789 à 99, ça, c'est pré-révolution française. À ce moment-là, les cuisiniers, là, c'était vraiment réservé aux gens qui avaient de l'argent, les nobles, les rois, les princes, les ducs, les marquis et autres. Puis c'est après la Révolution, quand ces gens-là ont perdu vraiment leur pouvoir en Europe, que là, les cuisiniers se sont un peu démocratisés. Ces gens-là devaient travailler pour se nourrir. Puis c'est là qu'ils sont un peu sortis des cuisines de manoir pour rentrer, mettons, plus dans accessible aux populations en général. Puis là, après ça, on a le premier là, de tous les grands chefs qu'on appelle, qui s'appelle Antoine-Marie Carême, donc qui est décédé en 1833. Fait qu'on parle de la gastronomie, c'est quand même relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Puis ça, c'est ce monsieur-là, c'était le premier à se faire appeler vraiment chef, parce qu'avant, c'était d'autres termes là, qui étaient utilisés pour les cuisiniers, parce que c'est vraiment un domestique, un serviteur qui était cuisinier, c'était pas quelqu'un qui était entrepreneur ou un chef. Encore une fois, c'était plutôt réservé à ceux qui avaient de l'argent. Après ça, plus tard, on a eu ce qui s'appelle les bouillons ou les binneries, mettons, au Québec, qui était vraiment comme une forme de pour que ces cuisiniers-là aient un métier de nourrir les gens. Surtout les travailleurs vite fait, bon, pas cher. Les premiers bouillons en France, les premières binneries, c'était comme quelqu'un qui a un commerce, une boucherie, il prend tous les morceaux qui sont pas vendus, il fait une espèce de ragoût, puis il vend ça vite fait, bien fait, aux gens pour qu'ils puissent se nourrir, surtout sur l'heure du midi. Puis ça, c'est des institutions qui existent encore aujourd'hui, puis qui ont un peu gardé le même credo, mais tu sais, c'est encore là, on est loin de la gastronomie. Plus tard, il y a eu Auguste Escoffier, donc vers les années 1850, là, 1935, son décès. Lui a vraiment codifié la cuisine qu'on appelle française, la gastronomie française. Fait vraiment, au début, tout le monde faisait un peu n'importe quoi dans la cuisine, puis on espérait au bout du rouleau que tout arrive bien fait. Mais lui a vraiment décidé de créer quelque chose de presque militaire, là, vraiment. Là. Il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a quelqu'un qui s'occupe de juste les viandes, quelqu'un qui s'occupe de juste les poissons. Puis c'est d'ailleurs, là, pour une petite note anecdote, là, c'est pour vous donner un petit peu un espace dans le temps, c'est lui qui avait écrit le menu pour le Titanic, là, Monsieur Auguste Escoffier.
Okay, okay.
Fait que pour vous donner comment que la gastronomie qu'on appelle plus moderne là, a commencé à arriver, là, c'est dans le temps du Titanic.
Okay.
Et lui, avec un monsieur qui s'appelle César Ritz, quand on passe au Ritz-Carlton, ben oui, c'est de là que ça vient. Ben, César Ritz et Auguste Escoffier étaient amis, ont travaillé beaucoup ensemble pour créer l'archétype du palace qu'on appelle dans les hôtels de luxe. Fait que c'est très, très grande hôtellerie avec très, très grande restauration. Puis eux autres ont créé cet archétype-là. Mmh. Plus tard, vers les années 60, on a les pères de la nouvelle cuisine qui ont commencé. Escoffier, Carême, c'est des cuisines qui étaient très lourdes, pas souvent digestes. On parlait de beaucoup de nourriture à table en grosse quantité avec beaucoup de gras. Puis eux, ces messieurs-là, ce qu'ils ont voulu faire un peu, c'est alléger la cuisine pour rendre ça plus digeste, puis plutôt en faire comme une sortie de semaine au restaurant plutôt qu'un banquet exceptionnel que tu vois là juste une fois par année ou par deux ans. Puis, tu sais, des gens comme Paul Bocuse, Michel Guérard ou les frères Troicot qu'on connaît plutôt bien. C'est juste pour vous donner un barème là, de qu'est-ce qu'était la cuisine nouvelle à cette époque-là. Là. On a le plat qui a révolutionné la cuisine en 1960, c'est le saumon à l'oseille. Fait que c'est un saumon qui était coupé en deux dans l'épaisseur, servi mi-cuit avec une sauce crémée où l'oseille était encore verte. Là. Juste pour vous dire que avant ça, là, les gens mangeaient les légumes verts complètement défoncés, bruns, kaki. Les viandes étaient toutes trop cuites. Les poissons étaient secs. Ça faisait partie de la mentalité. Il y avait peur peut-être des microbes ou quoi. Puis, tu sais, ça fait que là, ça fait vraiment pas longtemps, en fait, 1960, qu'on accepte de manger du saumon, là, mi-cuit, là, entre guillemets.
C'est tellement bon, en plus floconneux. Ben oui. Tout ben un...
Voilà, ouais. Mais tu sais, à l'époque, on ne mangeait pas ça, pas ah, du tout.
Ouais. C'était puis, des connaissances, hein, c'était des manques de connaissances.
C'était des manques de connaissances, puis aussi, ben, tu sais, on s'améliore avec le temps aussi pour faire le pont entre la connaissance et le client. Puis, c'est pour ça aussi que ça, il y a beaucoup de ces trucs-là qui ont été révolutionnés par la cuisine française. Fait que c'est pour pas confondre non plus le mot gastronomie française avec gastronomie tout court. Parce que la gastronomie française, c'est la cuisine française, ben en fait. C'est les plats classiques français. C'est même chose de gastronomie italienne, gastronomie vietnamienne. C'est pas nécessairement de la gastronomie, on parle plus de cuisine. Quand on parle de vraie gastronomie, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de... Surtout, ne pas servir un plat dans son expression la plus simple. Je m'explique.
Une soupe à l'oignon.
Ouais. Ben, steak blé d'Inde patate, c'est vraiment un plat gastronomique. Si tu fais juste du steak haché, c'est du blé d'Inde en crème et des patates pilées, c'est très simpliste.
Ben, je vais y aller. Moi, je pense que c'est selon la quantité qu'il y a dans l'assiette et la présentation.
La quantité joue un effet. Ouais. La présentation joue un effet, mais on est plus dans la recherche.
Ouais.
Avant, la sortie au restaurant pouvait précéder ou suivre une activité. Oui. On va manger au resto, on sort au resto après. Maintenant, dans la grande gastronomie, ce qu'on veut faire, c'est être la sortie. On veut que les gens viennent s'asseoir, passent 2-3 heures à table avec nous. C'est pour ça que dans la gastronomie, on va avoir beaucoup de travail sur l'assiette, mais l'assiette dans son individuel, mais pas dans son individuel seulement. Par exemple, un bistrot, une brasserie, un pub. Mais tu sais, tu peux manger juste une assiette puis avoir ton repas qui est complet. Dans la gastronomie, on veut pas faire ça parce que plus généreux égale moins raffiné. Puis dans la gastronomie, on veut le plus raffiné. On veut le meilleur possible. On veut des textures différentes, des contrastes de saveurs, donc du croustillant, du moelleux, du fondant, du chaud, du froid dans la même assiette, de l'acidité, du salé, de l'amertume. Puis ça, c'est chaque plat qui essaie de...
C'est plusieurs services, en fait.
Bien, c'est que chaque plat essaie d'être individuel dans tous ces contrastes-là, toutes ces saveurs-là, puis qu'après ça, c'est la succession de plats qui devient le repas. Le repas ne devient plus une assiette. Fait que déjà là, la grosse disparité, mettons, entre un bistrot, bien, un bistrot, tu vas avoir un tartare avec des frites, un burger avec des frites, tous ces genres de places-là un peu... bistrot. T'sais, d'ailleurs, bistrot, là, on se rappelle le mot bistrot, c'est un mot italien qui veut dire comme presto. Là. Fait que, t'sais,
y a oui, c'est rapide.
Un vrai bistrot, là, en fait, là, tu manges même des fois pas assis. Là. Il y a des bistrots en Italie, là, tu manges debout, puis tu manges comme une assiette sur le fly, puis t'es parti. C'est comme l'ancêtre du fast-food, le bistrot. T'sais, pub, brasserie, c'est quoi la différence? Ben, une brasserie va brasser sa bière sur place.
Oui.
Puis ils vont servir la nourriture, puis le pub, lui, fait juste servir la bière et la nourriture. Puis là, le bistrot, on a parlé, là, il y a la bistronomie qui vient où les gens raffinent les assiettes de bistrot. Mais tout plat qui sert un plat classique, je dirais, mettons, tartare de bœuf frites, burger frites, même burger salade, là, on s'entend l'accompagnement, mais c'est pas dans la gastronomie. Dans la gastronomie, on va vraiment y aller pour le plus, le summum, le meilleur de ce qu'on peut faire, puis essayer de vraiment que la succession de plats soit la sortie, soit l'événement. Il y a beaucoup de restaurants maintenant qui font des trucs qui sont super théâtraux en cuisine, beaucoup de travail à table à côté du client, beaucoup de petites surprises, beaucoup d'interactions. Là, on parle pas non plus des crêpes flambées. Là. Ça, les crêpes flambées, ça date de 1935, là, juste pour vous le dire. Là. C'est quelque chose qui est vraiment pas moderne.
Non, mais ça reste que c'est tout le temps impressionnant à regarder.
C'est super bon. On ne dénigre pas la cuisine qui est faite. C'est les classiques français sont super bons. Mais c'est juste que c'est des types de restauration. L'offre est différente. Le client, après ça, peut choisir s'il a le choix avec le pouvoir d'achat. Maintenant, de choisir ce qu'il veut, ce qu'il aime. Puis on n'est pas là pour dire que c'est pas bon.
Non, on démystifie ce qu'est la gastronomie.
Nous, ici, c'est pour ça qu'on fait au 168. La gastronomie, c'est vraiment dans le dépassement du plat, dans le dépassement des saveurs, puis dans la surprise puis la découverte pour le client.
Ben puis écoute, c'est plein de découvertes. Mais on veut juste rappeler, l'entrecôte, ça n'existe plus.
Écoutez, ça fait 14 ans. Je pense qu'il y a peut-être un petit deuil qui doit être fait pour certains.
Mais là, au bout de 14 ans...
Des fois, les deuils sont longs.
Mais c'est fini.
En allant essayer vos repas, le deuil va mieux se faire.
Ben je pense que si c'est bien fait de notre côté puis c'est bien admis, puis que le client est ouvert d'esprit un peu, je pense qu'on peut trouver notre compte, même dans un restaurant gastronomique. Puis on parle pas d'affamer les clients avec des petites portions. C'est juste que la générosité, des fois, c'est contraire au raffinement.
Ouais.
Mais je vous garantis que si vous mangez une succession de plats, que ce soit 2 ou 3 ou en 4 services ou en 7 services, vous aurez plus faim après votre repas.
Parlant de ces services-là, là, tu sais, on a les mercredis. Oui, c'est ça. On a les mercredis qui sont spéciaux. Ça fait 2 que tu fais. Là, il y en a d'autres qui s'en
viennent. C'est notre 12e itération. On pense finir ça dans le coin du 13, ben, le mercredi le 13 de juillet.
Oui.
Le mi-juillet, c'est vraiment... On développe un plat. On recherche, on travaille, on essaye des choses. Fait que vous êtes un peu notre cobaye. On s'assure que ça soit toujours bon, bien
c'est
sûr,
ça.
Mais ce plat-là qui est créé pour le mercredi, vous ne le payez pas si vous prenez un 4 services, en
c'est
fait.
C'est ça.
Fait que c'est vraiment inclus dans le 4 services. Ça vous fait un 5e plat, puis une petite bouchée fromagère qui est incluse aussi pour faire comme une espèce de 6 services, si vous voulez, mais pour le prix du 4 services. Puis c'est vraiment là pour nous permettre de nous éclater sans nous soucier trop des conséquences, de dire, écoute, on essaye ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu ambitieux, c'est peut-être quelque chose qui est un peu extravagant, mais on l'essaye, puis c'est ce soir-là qu'on le fait, puis on regarde la réponse du client.
Bon, mais merci beaucoup, Ariel, si vous avez envie d'en connaître un peu peu plus, allez faire un tour sur la page Facebook du restaurant 1668. On se retrouve dans deux semaines ou tu nous envoies
Kevin? Oui, dans deux semaines, ce sera moi encore.
Ah ben, Colin, fait qu'on se
revoit dans deux semaines. Au plaisir, merci beaucoup.
Merci.